Bonjour, bienvenue dans ce libre journal du cinéma. Alors, un libre journal un peu spécial où on va s'attarder sur quelques grands films, notamment avec cette réplique « Forget it, Jack, East Chinatown ». Laisse tomber, Jack, c'est Chinatown. La réplique est culte, point d'orgue d'un film tout aussi culte. Cette vérité terriblement fataliste nous hante et continue de nous hanter. Vérité qu'on pourrait traduire en « Laisse tomber, Jake, le monde est ce qu'il est, le mal est partout, cette ville est pourrie, c'est comme ça, c'est inéluctable, on ne peut rien y faire ». Par cette fin, par cette dernière réplique, les quatre principaux artisans du film Chinatown, sorti en 1974, Robert Towne, le scénariste, Robert Evans, le producteur, Roman Polanski, le réalisateur, et Jack Nicholson, l'acteur, dressent le constat ô combien douloureux de la fin d'un monde. L'Amérique s'est construite dans le sang, le vice et la corruption, Hollywood se meurt de ses pulsions vénales, Los Angeles n'est plus le paradis de rien. Forget it, Jack is Chinatown. C'est comme ça. Alors que peut-on faire? Raconter, analyser, essayer de comprendre pourquoi ce film, Chinatown, est si important, pourquoi sa construction relève presque du miracle, pourquoi d'une histoire de détective privé remise au goût des années 70, on en vient à produire l'un des plus grands polars, film noir du 7e art. C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, à notre humble mesure, dans cette émission, en compagnie de Marc Aubrégon. Marc Aubrégon, bonjour.
Bonjour Philippe Henry.
Alors Marc, vous êtes écrivain, journaliste et critique cinéma à l'incorrect. Vous avez publié entre autres L'Orbe en 2023. Je vais quand même vous rajeunir un peu. Mort au peuple, Omégaton aux éditions du Verbe Haut, Le Sucre, qui est paru chez La Mouette de Minerve. Et récemment, vous avez participé à un ouvrage collectif, Les Cahiers de la Marge, sur l'un des derniers grands écrivains français, peut-être même le dernier, vous allez me dire, Maurice Dantec.
Tout à fait.
Alors, mort il y a 10 ans, bientôt 10 ans, le 25 juin 2016, qui a laissé un grand vide dans le paysage littéraire français si atone. Alors, question qui va vous paraître peut-être provocatrice. Marc, est-ce qu'il est nécessaire de lire Dantec aujourd'hui?
Alors, c'est une très bonne question parce que souvent on dit que Dantec a un peu vieilli. C'est vrai qu'il s'inscrit à la base dans une forme qui est celle du polar lié à la série noire, donc avec son mentor qui était le maître d'œuvre du Poulpe. Et en fait, Dantec appartient vraiment à son époque et je pense qu'il faut le lire et le relire, tout comme Philippe K. Dick, parce que finalement, leur style s'inscrit dans un style qui est un peu daté, qui est ensuite de la SF cyberpunk pour Dantec. Mais malgré tout, il a eu des intuitions qui sont d'ailleurs visibles dans son journal des opérations, qui était son journal qu'il a tenu en même temps que ses romans. Et si parfois, ces romans, on peut dire que c'est des gros romans ratés parce qu'ils sont remplis de digressions métaphysiques, théologiques. Parfois, les intrigues ne tiennent pas bien debout. En revanche, ces romans, leur contrepoint, c'est son journal. Et je pense que le duo entre son journal et ses romans crée une sorte d'œuvre pulvérulente qui est presque, je dirais, qu'on peut toujours continuer à creuser sans jamais trouver le fond ou la solution. Donc oui, il faut lire Dantec, même si parfois ça peut paraître un peu abstrus pour le profane.
Et bien justement, alors... Si on a certains auditeurs qui ne connaissent pas Dantec comme écrivain, par quoi commence-t-on, par exemple? Est-ce que justement on alterne un peu comme vous disiez le...
Alors je pense que Dantec, il faut commencer par son deuxième roman qui s'appelle Les Racines du Mal, qui est précisément le roman où en fait il utilise le polar comme socle fictionnel pour peu à peu dériver vers une sorte de science-fiction, d'anticipation on va dire, paranoïaque. Et c'est vraiment le roman finalement où ces deux tendances vraiment sont le mieux articulées et en tout cas le plus lisible pour un lecteur profane. Ensuite on pourra lire Villa Vortex, qui est peut-être son roman le plus complet, sorti à l'époque chez Albin Michel, et qui est pour le coup un roman fou en fait, bourré de où Dantec commençait vraiment à délirer sur la théologie, sur la physique quantique, sur saint Thomas d'Aquin, sur les pères de l'Église, sur Bouddha. Enfin, c'était voilà, c'est une sorte de roman laboratoire, comme il se plaisait à le dire. Donc, Villa Vortex, ça serait, je dirais, le passage. Enfin, ça serait la deuxième lecture qu'on s'est un peu fait à son écriture. Et donc, bien sûr, son théâtre des opérations, qui est un journal qui a été édité en trois tomes, me semble-t-il, et qui a notamment prophétisé beaucoup de choses qui se passent maintenant. Voilà. Il nous manque parce qu'on serait bien curieux de savoir ce qu'il penserait du monde d'aujourd'hui.
Oui, il avait prophétisé beaucoup de choses quand on le lit. Alors, Les Cahiers de la Marge, hommage à Dantec, ça coûte 18 euros, c'est aux éditions Nouvelle Marge, vous pouvez le commander. Alors, avec votre contribution, celle de Juan Asensio, Romain Sangar, Maximilien Frisch, Sylvain Gauthier, j'en passe. Voilà, tous les amoureux de ce prophète des temps modernes qui disait qu'un livre, pour mériter d'être écrit, doit susciter des désastres, engendrer des perditions, des anéantissements, des trahisons de l'ordre social. Il doit prodiguer le feu d'un incendie esthétique. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette citation aussi au film, un bon film.
Bien sûr, je pense que toute œuvre d'art, tout chef-d'œuvre, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit cinématographique, est une œuvre qui se consume elle-même finalement et qui contient en fait encodé en elle son propre échec, son propre. Je crois que c'est Godard qui disait que les grands films sont d'abord des films sur leur propre tournage et donc sur leur impossibilité à devenir en tant qu'œuvre d'art. Donc effectivement, je pense que les grandes œuvres d'art en fait contiennent leur échec en fait.
Et on le verra d'ailleurs avec Chinatown.
Tout à fait, qui est un grand film sur l'échec.
Ouais. Qui est un film total, voilà, qui est le film absolu, un des films absolus sur l'échec. Mais avant de parler de Chinatown, nous allons parler aussi de Rosemary Baby, qui est aussi un chef-d'œuvre du cinéma horrifique, mais pas que, justement, il y a plein de thèmes qui en découlent. Et puis d'un autre très grand film aussi, sorti la même année que Chinatown, La Combe Lucien, mais dans un parallèle avec l'actualité cinématographique que nous allons maintenant aborder avec les films du mois.
On a choisi un sujet difficile et on l'a traité honnêtement, avec foi, sans concession. Et je crois que ça peut faire un grand film.
Alors, il y a des films qui vous donnent envie de croire encore à Hollywood, de ne pas désespérer trop violemment sur l'inanité des studios devenus des micro-ondes de l'imaginaire. On réchauffe tout ce qui a plus ou moins marché, rien d'original, on refait, en moins bien forcément. Mais les gens sont de moins en moins exigeants, donc c'est pas grave. Et puis ils oublient vite, voilà, ils scrollent, donc on peut y aller, on recycle. C'est écologique finalement. On saupoudre ça de quelques références appuyées pour faire plaisir à des geeks peu regardants et le tour est joué. Sauf que parfois, heureusement, il y a des exceptions. Et nous allons évoquer l'une de ces exceptions qui est sortie le 18 mars dernier, Projet Dernière Chance de Philip Lord et Christopher Miller.
Please state your name.
Rylan Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment.
And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
If you don't go, you die.
Alors, de quoi parle le projet Dernière Chance? Eh bien, le point de départ est le suivant. Ryland Grace, un professeur de sciences, un peu loser sur les bords, voire même totalement, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Et je ne vous en dirai pas plus, car si j'ai bien deux conseils à vous donner sur ce film, c'est un, d'aller le voir, et de ne surtout pas aller voir la bande-annonce avant. Voilà, faites confiance aux critiques qui sont assez laudatives et nombreuses. Si vous aimez la SF, allez le voir, et je rajouterai même, nul besoin d'être un grand adepte du genre pour apprécier le film. Alors pourquoi donc? Qu'est-ce que le film a de si particulier? Est-ce que c'est un grand film? Alors un grand film, non, je ne pense pas, mais il ne revendique pas ce statut. Un bon film, oui, c'est un très bon film, je le pense. Un film qui vous embarque dans un univers original sur un sujet finalement assez minimaliste durant près de 2h30. Un film qui était une anomalie totale, disons-le. Voilà, rendez-vous compte, 200 millions de dollars de budget, de la part entre autres d'Amazon MGM Studio, alliance bizarroïde du nouveau riche et de l'illustre studio, pour une histoire originale, très casse-gueule sur le papier, adaptée d'un livre d'Andy Weir, dont le premier roman, Seul sur Mars, a été adapté au cinéma en 2014 par Ridley Scott avec Matt Damon. Alors de même que pour le dernier film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui présente le même budget qui s'est produit parce que Leonardo DiCaprio soutenait le projet, on peut raisonnablement penser que le film s'est fait en grande partie aussi grâce à Ryan Gosling, même s'il était en développement depuis très longtemps, qui est l'acteur principal du film et le coproducteur. Et c'est tant mieux. Derrière la caméra, nous avons Phil Lord et Christopher Miller, deux réalisateurs qui travaillaient sur le projet depuis 2020, avant que la MGM ne soit rachetée par Amazon. Deux sales gosses, on va dire, hein, doués d'un certain sens de la mise en scène, mais ne rentrons pas dans le moule des bien-pensants des grosses productions hollywoodiennes, à tel point qu'ils ont été débarqués après 6 mois de tournage du film Solo en 2018, qu'a récupéré Ron Howard. Alors ces deux trublions, au talent certain, nous gratifient d'un excellent montage, sans temps mort, jouant sur deux temporalités avec une mise en scène inspirée, s'articulant autour de la notion de gravité. Alors rien que ça, c'est déjà très bien. Et puis autre point important, eh ben, on a l'absence de fond vert à l'intérieur du vaisseau. Quel plaisir de voir à l'écran un décor qui est un vrai décor, qu'on peut presque palper, et non une énième incrustation numérique totalement artificielle. Alors c'est en quoi Projet Dernière Chance s'inscrit dans la veine de ces films de SF généreux qui ont jalonné le genre depuis de nombreuses années. Et parlons aussi de la photo, une photo qui est colorée, le spectre est large, une très belle photo de Greg Fraser, ce qui change les ambiances visuelles grisâtres très en vogue aujourd'hui. Les rayons et les ombres dont on parlera tout à l'heure ne fait pas exception à la règle. Et on peut aussi parler de la musique de film, signée Daniel Pemberton. Là aussi, c'est coloré avec des sonorités nouvelles, attrayantes, qui tranchent avec la monotonie et le peu d'ambition harmonique des bandes originales actuelles, inspirées fortement par Hans Zimmer. Alors les deux réalisateurs jonglent parfaitement avec différentes émotions, sans cynisme, presque avec naïveté. On passe du rire aux larmes sans même s'en rendre compte. Assurément, Projet Dernière Chance mérite son ticket de cinéma. Et si le succès du film pouvait donner envie à Hollywood de continuer dans cette veine, on en demanderait pas mieux. Marco Brigon, vous avez vu le film et je crois que vous l'avez aussi apprécié.
Oui, écoutez, c'était finalement une bonne surprise. C'est vrai que moi, à la base, je suis pas un très grand fan du travail de Lord et Miller, qui viennent d'abord de l'animation, faut le rappeler, et qui en tirent, je pense, cette relative liberté artistique, mais aussi parfois ce côté un peu jeune frondeur qui peut être un peu agaçant, avec souvent de l'humour un peu trop présent. Et je craignais un peu justement cet humour au vu de la bande-annonce justement. Et en fait, c'est un film. Qui est sous ses dehors un peu léger et assez grave, et qui, comme tous les grands films de solitude interstellaire, finalement devient très intimiste très vite. Alors comme vous dites, les 200 millions sont quand même très bien dépensés. On voit effectivement qu'il y a des décors en dur, des effets spéciaux en dur qui sont très crédibles et qui rappellent le grand cinéma de Spielberg des années 80-90. Donc ça, vraiment, l'argent se voit à l'écran, comme on dit. Mais très vite, en fait, le vrai sujet du film apparaît, et le sujet du film, finalement, c'est l'amour, en fait, tout simplement. Et en fait, pour moi, ça en fait un grand film chrétien au même titre que Interstellar ou que Contact d'ailleurs de Zemeckis, qui est un grand film d'espace oublié et qui montre qu'en fait que quand on va confiner l'espace, quel est le plus petit facteur commun de l'humanité, en fait c'est sa capacité empathique, donc c'est son amour. Et je trouve qu'en semaine sainte, alors c'est un message qui peut paraître simple, mais quand il est servi par un film de 200 millions qui en plus rencontre un très grand succès, ça donne un peu d'espoir sur le cinéma hollywoodien et notamment sur le cinéma de genre. Car c'est vrai que récemment, on a vu que certaines tentatives, comme je crois The Creator, qui était intéressant à sa façon, avait fait un bide. Et du coup, on avait un peu peur que les majors se disent que seules les franchises marchent. Et là, on a la preuve qu'on peut défendre un sujet original, presque intimiste, parce que finalement, le film se résume pendant 2 heures à un dialogue entre Ryan Gosling et je ne vous dirai pas quoi, mais en tout cas une entité extraterrestre très simplifiée, très simpliste. On me dirait presque une blague à la base, et pourtant ça marche. Ah ouais. Et c'est toute la force du cinéma que d'investir, que de faire cette présence réelle à partir de rien, en fait.
Ah oui, non, c'est la vraie réussite de ce film est là. C'est un film sur le don de soi et cette capacité de l'humain à se donner, enfin, et pas que l'humain. Allez le voir et vraiment. Allez-y sans arrière-pensée, laissez-vous surprendre, voilà. C'est vraiment une des très belles réussites, et le film, effectivement, vous avez raison de le souligner, marche très bien, et c'est bon signe, voilà, c'est bon signe.
D'ailleurs, c'est un film où on peut également emmener ses enfants, parce que c'est un film qui est quand même pour tous les âges, et qui véhicule vraiment des valeurs qui sont saines, mais qui ne sont pas, on va dire, jetées à la face du spectateur.
C'est un film qui fait confiance à l'intelligence du spectateur, qui passe beaucoup par la mise en scène pour, justement, vous faire réfléchir sur les choses. Voilà, on n'est pas du tout dans un esprit très didactique, pas du tout. On va vous montrer comment ça s'est... Enfin, on vous montre par le fil du récit, qui est un récit qui est vraiment assez bien mené, avec un très bon montage, justement, avec ses alternances, ses flashbacks. Une très belle surprise et que j'encourage.
Et pour finir, j'aimerais quand même signaler que le dernier plan du film, alors je sais pas du tout si c'est une référence pensée de la part des cinéastes, mais pour moi est un hommage à Tarkovsky dans Solaris. Alors je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas moi j'y ai vu un écho du dernier plan donc ce qui voudrait dire beaucoup sur leur cinéphilie, mais aussi sur le côté spirituel du film finalement.
Eh bien, écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et maintenant nous allons aborder aussi un autre film qui, alors là aussi, pareil, alors, a eu peut-être encore plus d'échos, des échos souvent d'ailleurs assez laudatifs dans l'ensemble, bon, mis à part quelques aigris, mais sinon le reste a été vraiment très très positif. C'est le film « Les rayons et les ombres » de Xavier Giannoli, dont vous allez écouter un extrait de la bande-annonce.
Plus jamais ça, car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples.
Je voudrais raconter comment on en est arrivé là.
Willkommen.
Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus.
L'Allemagne veut la paix.
Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler.
Alors, il faut maintenir le dialogue avec Hitler, vaste programme diabolique, programme auquel s'est attelé... Jean Luchaire, voilà, avec sa fille Corinne Luchaire, qui l'a emmené un peu dans cette entreprise de destruction massive. Donc nous suivons l'histoire vraie de Jean et Corinne Lucher, pris dans l'engrenage de la collaboration. Alors, Marc, vous avez écrit un article dans La Correcte sur le sujet, donc j'aimerais justement que nous en parlions. Et puis surtout, parce que sur ces antennes d'ailleurs, nous sommes beaucoup revenus sur le fond du film, j'aimerais aussi qu'on aborde la forme. Mmh. Voilà. Savoir quels sont votre ressenti par rapport à ce film.
Alors, moi, c'est simple, en fait, sur le fond, je trouve que c'est un film, comme souvent chez Giannoli, c'est un film très bien écrit, très bien conçu en amont, très bien pensé, avec une vraie volonté de montrer à quel point les processus historiques sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, et à quel point, justement, dans des périodes de troubles, comme ça, dans des périodes de transition entre deux régimes, on peut tout à fait être bardé des meilleures intentions et s'en trouver du côté du mal sans même s'être rendu compte. Et donc, à ce titre, voilà, je pense que Giannoli a fait un tour de force, c'est de montrer, parce que le film dure 3h15, mais je pense que ces 3h15 sont justifiés pour une fois, parce qu'il est vraiment très attentif aux petits événements qui vont peu à peu, acheminer donc Jean Luchet et sa fille vers la collaboration. Alors après, moi sur la forme, je serais beaucoup plus mitigé. Giannoli, pour moi, c'est un grand scénariste, c'est beaucoup moins un grand cinéaste. Je pense que malheureusement ces films font partie de ce que j'appellerais un peu maintenant la qualité française, c'est-à-dire des films de reconstitution très qualitative, donc tout est là, les maquillages, des décors faramineux, etc. Mais je dirais qu'il tout ça est un peu pompier, à mon avis, un peu académique, et manque un peu de mise en scène. Je trouve que souvent, ça frise un peu avec le feuilleton télé. Ils se contentent souvent de faire des chants contre chants. Mais je pense que malheureusement, c'est un peu le cahier des charges maintenant de ce qu'on appelle la Netflixisation des esprits. C'est que maintenant, il faut, pour expliquer une chose au spectateur, il faut souligner tout au stabilo, il faut tout expliquer. Donc voilà, pour moi, le film est un peu explicatif, un peu pompier, mais Giannoli s'en tire, notamment vers la fin, parce qu'on sent que vers la fin, il aime quand même, comme il l'avait fait avec son film d'après Balzac, Ils ont perdu. Il aime quand même notamment les scènes d'orgie, la décadence, et donc la dernière heure, un côté assez viscontien qui peut rappeler les damnés. Donc là, on sent qu'il s'émancipe un petit peu, mais parfois, je pense qu'il est un peu, comment dire, qu'il est un peu envahi par son sujet. Et d'ailleurs, juste pour finir, on pourrait comparer avec Dupontel, qui pour moi, qui est un bien meilleur formaliste, et qui avait dans Revoir là-haut, sur un segment d'histoire bien différent, mais qui avait pour le coup réussi à être très, très fort sur l'écrit et aussi sur la forme, parce que pour le coup, c'était un grand film de cinéma.
Oui, un grand film, exactement. Mais j'ai eu exactement la même impression, c'est-à-dire, j'ai eu l'impression, déjà, effectivement, des deux premières heures assez didactique, on nous explique, voilà. Il y a une voix off qui est assez omniprésente et qui malheureusement, rajoute ce message. Donc il y a cette voix off, il y a même à la fin tout un monologue du procureur Toriton, d'ailleurs c'est assez jubilatoire de le voir dans le rôle d'un procureur, ça lui va à merveille, qui rappelle un peu ça, comme si nous-mêmes spectateurs on s'était pas rendu compte des aspirations mortifères de Luchère. Donc oui, sur la fin, moi je suis beaucoup plus réservé, parce que ce genre de film, en fait c'est une fresque sur un salopard. Quand on pense un peu à certains films américains, même dans des genres très différents, même des films de gangsters, on a besoin d'être un peu emporté, d'avoir un souffle, d'être en fait, de nous poser nous en tant que spectateurs avec cette question qui nous trouble énormément, dire moi aussi je suis fasciné par ce que lui a ressenti, moi aussi je suis dans l'empathie, et d'un coup qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et malheureusement, moi, pas une fois, en tout cas dans le film, dans le déroulé sur les deux premières heures, je suis aussi d'accord avec vous sur la dernière heure, j'ai été assez emporté parce que justement je pense que Giannoli est bien plus à l'aise dans ce cinéma de chute, en fait. Mais l'ascension, toute la fascination qu'il a, que Luchère avait, je trouve ça assez froid. Je ne suis pas un grand fan de cette lumière un peu grisâtre, verdâtre, qui, je trouve, met une sorte de distance. À la différence, on va en parler du film de Louis Malle, La Combe Lucien, qui est très ensoleillé. Ou même Chinatown, d'ailleurs, film très noir, mais très ensoleillé. Là, il y a une sorte de distance. Le vrai personnage, moi, je trouvais du film, finalement, c'est Corinne Lucher, parce qu'en fait...
On est sûrement d'accord de dire le film inspiré de ses mémoires, en fait, voilà. Principalement.
Ouais, c'est elle qui est un peu le... Mmh. C'est comme si Gianoli, en fait, utilisait, ne voulait pas non plus se confronter totalement à la figure du mal et passe par l'entremise de sa fille pour justement parler de son père. Donc, moi, j'ai été assez réservé. Je trouve que Gianoli, par exemple, on a beaucoup comparé, par exemple, au film, justement, de Louis Malle. Il ne va pas aussi loin qu'un Louis Malle, justement.
Et je dirais qu'on peut également le comparer à Black Book de Verhoeven. Et il ne va pas non plus aussi loin que Black Book de Verhoeven, qui pour le coup avait pour personnage central une femme collaboratrice et qui subit un tas de d'épreuves complètement incroyables. Et à ce titre, effectivement, il est bien en dessous de Black Book.
Voilà, donc, et alors, bon, j'en fais peut-être une fixette, mais alors la musique, malheureusement, n'est pas du tout à la hauteur. Musique de Guillaume Roussel, ce sont des nappes sonores et qui d'ailleurs, plusieurs fois dans le film, je suis fait l'observation, c'est qu'il y a 7 nappes sonores puis on rajoute derrière des disques qui passent, donc ça crée un salmigondi musical qui est vraiment pas terrible. Donc il y a quelques scènes quand même qui marchent, la scène des Invalides est assez impressionnante, elle est quand même là, un côté un peu elle est sidérante, et effectivement il y a toutes ces scènes à la fin qui sont pathétiques, et donc dans ce pathos là on rejoint les personnages, mais pendant 2 heures, en fait, moi, je n'ai pas été transporté au point de rejoindre les personnages dans leurs aspirations, dans leurs doutes, dans leur lâcheté, hein, parce que voilà, c'est l'histoire c'est l'histoire de compromission, de petite compromission, c'est une enfilade de compromission. Donc, voilà, c'est vraiment le regret que j'ai, parce qu'effectivement, comme vous le dites, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire, le sujet était courageux. Il faut aller le voir, parce que c'est important que le cinéma français investisse ce genre de sujet. Le cinéma est courageux, c'est un film qui n'est pas manichéen, donc voilà, donc, pour ces raisons, allez le voir. Après, voilà, comme vous, j'ai quand même sur la forme une certaine réserve, et ça nous permet de parler aussi d'un... Parce qu'on l'a beaucoup comparé, c'est Lacombe Lucien de Louis Malle, qui est un film alors qui retrace, en fait, qui s'attarde sur, pareil, un destin particulier, hein, celle d'un Lucien Lacombe qui fait des ménages dans un hospice et qui va rentrer un peu par hasard dans les Gestapo, on est dans le sud-ouest. Et vous en faites référence, vous aussi, dans votre article. Qu'est-ce qui fait la force, justement, de ce film de Louis Malle? Peut-être par rapport à Gianoli, c'est qu'il est allé beaucoup plus loin.
Si vous voyez, pour moi, ce qui fait la force du film de Louis Malle, en fait, c'est toute la force du cinéma des années 70, des 70s, qui était un cinéma justement non didactique et qui laissait quelque part les personnages s'exprimer. C'est peut-être grâce notamment à l'héritage de Nouvelle Vague, mais en tout cas, il y avait vraiment cette volonté presque de laisser la caméra filmer. D'ailleurs, il y a une scène fameuse où donc le jeune héros qui a été casté par Louis Malle parmi une centaine de paysans du cru, donc qui savait parfois à peine parler. D'ailleurs, ce jeune héros qui est mort tragiquement après en accident de voiture, a vraiment un accent à couper au couteau. Et donc il y a une scène fameuse où en fait il transporte une poule avec la main, et en fait en voulant la secouer pour qu'elle se calme, en fait il la décapite. Et en fait il le fait vraiment parce qu'apparemment c'est un jeune homme très fort, et donc Louis Malle a gardé cette scène au montage. Et en fait, si vous voulez, ça montre bien qu'à l'époque le cinéma n'était pas tant une affaire d'écriture et de didactisme qu'une affaire finalement de créer des conditions sur le tournage d'une réalité alternative. En fait, et à ce titre, je trouve que Lacombe Lucien, en fait, est un film presque naturaliste au début, et qui peu à peu, à mesure que notre jeune anti-héros finalement intègre la Gestapo locale, en fait, devient un vrai film, une sorte de cauchemar domestique, puisqu'en fait, il est dans une sorte de manoir où vivent tous les collabos. Et là, on dirait presque, d'ailleurs, je crois que les films sont concomitants au niveau de la date, on dirait presque du Salaud de Pasolini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conscience que le mal n'est pas tant une absence de bien qu'une absence tout court, qu'une sorte d'oisiveté, perpétuel. Et donc je trouve que Louis Malle a très bien réussi à montrer, parce qu'en plus les alliés arrivaient au même moment, cette espèce d'ambiance de fin de règne, où tout est permis, et où finalement le bien et le mal sont juste des polarités qui oscillent l'une sur l'autre, en fait.
Oui, donc c'est pour ça, chers auditeurs, voilà, s'il y a un film peut-être aussi à revoir, c'est Lacombe Lucien de Louis Malle, film qui lui a quand même valu à Louis Malle de s'exiler aux États-Unis.
Tout à fait, oui.
Donc l'accueil était quand même beaucoup moins charitable qu'aujourd'hui pour Gianoli. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'effectivement, quand vous me dites aucun didactisme, aucune voix off, Ce refus de la voix off, on le verra plus tard dans Chinatown. Polanski ne voulait absolument pas de voix off. Et je trouve que c'est très intéressant quand on fait un peu les parallèles entre le film de Giannoli, le film de Louis Malle et même le film de Polanski, c'est qu'il y a vraiment ce côté, cette confiance totale entre la mise en scène, ce qu'on va filmer, et que finalement le récit se suffit à lui-même.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, on va passer bientôt à notre thème central, mais avant ça, justement, on va écouter une musique tirée du film de La Combe Lucien. C'est une musique, et d'ailleurs, qui est très intéressante, c'est que la musique est très légère, alors que le film est dramatique.
Oui, c'est Django Reinhardt.
Django Reinhardt, voilà, de Minor Swing.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous vous revoici dans le Libre Journal du cinéma. Et il est temps maintenant d'aborder un peu le cœur de notre émission et de parler d'un film qui a marqué certaines générations, un film assez traumatisant. Un film de Polanski qui est le premier film où il y a la collaboration entre Polanski et Robert Evans, qui sera une collaboration extrêmement importante, et un film sur lequel d'ailleurs Polanski disait: pour la première fois je me suis senti totalement libre de faire ce que je voulais sur un film. Je vais vous laisser Marc présenter peut-être juste le point de départ de ce film.
Alors, le point de départ de ce film, il est multiple. Je pense que d'abord, il y avait chez Polanski cette obsession. Vous savez, on a dit qu'il avait tourné une trilogie domestique, une trilogie des appartements. Donc, il commence avec Répulsion, qui continue avec Rosemary's Baby, qui finit avec Le Locataire, qu'il a tourné donc en France, avec notamment l'équipe du Splendide en second rôle. Et donc, en fait, je pense que Polanski, effectivement, avait, d'ailleurs, il le dit souvent dans son journal, tenait pour horreur, finalement, la promiscuité, en fait, c'est-à-dire le voisinage. D'ailleurs, il avait souvent des maisons très isolées en Californie. Je pense que pour lui, sûrement de son enfance, le voisinage était vraiment une source, l'altérité, l'autre était vraiment une source d'horreur, quoi. Et je pense que Rosemary's Baby vient d'abord de ça, hein, juste de cette sorte de rapport à l'autre qu'il percevait comme infamant, se sentant sûrement trop poreux aux autres. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelait à l'époque la satanique panique, qui était en fait, vous savez que la Californie a été imprégnée par les mouvements New Age, mais que derrière les mouvements de New Age, il y avait souvent des dogmes, voire des sectes bien plus inquiétantes, à commencer par la théosophie de Blavatsky, qui avait irrigué vraiment le système hollywoodien. Et je pense que Rosemary's Baby est une dénonciation, finalement, des racines, on va dire, occultes, voire satanistes, du système hollywoodien. Et d'ailleurs, d'aucuns, parce qu'il faut savoir que Sharon Tate est mort un an après le film. Et à l'époque, vous savez que les tabloïds disaient qu'en fait, c'était une revanche des satanistes.
Rosemary Baby, et quand on sait après ce qui s'est passé avec Sharon Tate, qui, je rappelle, était assassinée par des membres de la secte de Charles Manson, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, on ne peut que penser qu'il y a un parallèle entre
et d'ailleurs, à l'époque, après le massacre de Chilo Drive, donc de Sharon Tate et de son serviteur, je crois, il y a plusieurs.
Oui, ils étaient plusieurs, effectivement.
Je crois que d'ailleurs, il y a eu même une ressuscité d'antisémitisme, parce que je crois que même Polanski a été accusé d'avoir tué sa propre femme. Il a dû se justifier auprès du tribunal pour une paire de lunettes en écaille
toute une histoire avec
et
ça.
Ça a vraiment été une paranoïa, et qui donc a mis un peu un terme au Hollywood hippie, et qui a fait sombrer Hollywood dans une autre phase, dont Chinatown d'ailleurs sera peut-être.
Chinatown est l'émanation de cette fin d'un rêve.
Et donc, alors, juste pour l'argument, pour ceux qui n'auraient pas vu, donc c'est l'histoire d'un jeune couple, désargenté, mais quand on voit leur appartement, on dit déjà qu'il y a un problème, mais donc incarné par Mia Farrow et John Cassavetes, qui sont alors l'un est jeune acteur de théâtre et l'autre est femme au foyer.
Ouais, jeune acteur qui ne réussit pas d'ailleurs.
Elle est enceinte. Et donc, ils vont emménager dans un immeuble new-yorkais qui est très connu et qui est très opulent, à côté d'un couple de retraités qui se montre de plus en plus envahissant et de plus en plus inquiétant.
Voilà. Et on ne vous en dit pas plus. Là, pour le coup, c'est un film qu'il faut voir peut-être à partir d'un certain âge, mais en tout cas qui est extrêmement intéressant. Tout d'abord déjà parce qu'il est tiré d'un livre de Irvin Levin.
Ira Levin.
Ouais, exactement. Et qui est proposé par Robert Evans à Polanski. Polanski est totalement athée, ne croit pas au diable, ne croit pas à tout ça. Mais il est complètement, il est fasciné par le livre et il le traite justement sur un volet en l'inscrivant totalement dans un réel. Il ne cherche à se libérer du carcan classique du film d'horreur comme tel qu'on le pense, avec ses manoirs gothiques. Là, il l'inscrit dans un appartement new-yorkais, très spacieux, très grand, mais très classique.
Très, très, très Rupin.
Et c'est un film aussi, vous en avez parlé un petit peu, Rosemary Baby est un film aussi sur la parano. Et Polanski, dans ce film, avait toujours cette volonté que le spectateur se pose la question, est-ce que tout ça est un rêve ou est-ce que c'est réellement vécu? C'est un film déjà que sur le complot.
Et sur le couple, parce que finalement c'est un film, c'est un grand film sur le couple qui pose la question, est-ce qu'on connaît vraiment finalement son conjoint? Et notamment le personnage joué par Cassavetes à ce titre, qui est complètement démoniaque dans le film, qui incarne à merveille justement cette espèce d'apparente sympathie qui peu à peu se transforme en totale manipulation. Donc c'est vraiment un film effectivement sur la paranoïa qui peut s'instaurer au sein d'un couple et qui peut être instrumentalisé par des sectes ou par des gens mal intentionnés autour.
Oui, et c'est marrant, en regardant à nouveau le film, on ne peut que penser à cette actualité morbide que nous avons en ce moment sur les dossiers Epstein et compagnie.
Ouais.
Et quand on voit ça, on ne peut faire que le lien.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, il y a une relation avec un autre grand film d'un autre grand réalisateur juif qui est Kubrick. Et pour moi, le film dialogue aussi avec Eyes Wide Shut. Il y a vraiment des
connexions. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que les deux là-dessus dialoguent énormément. Mais écoutez, je vous propose d'écouter pour vous mettre un peu dans l'ambiance du film. Alors, je sais, c'est l'heure du déjeuner, c'est peut-être pas, mais d'écouter le parce que la musique est exceptionnelle de Christophe Komeda, d'écouter cette berceuse chantée par Mia Farrow. Superbe musique de Christophe Komeda qui, sur une berceuse enfantine, arrive à créer cette espèce de trouble, d'angoisse. Voilà. Et maintenant, nous allons donc... Rosemary Baby, on est en 68. Polanski va commence vraiment à s'intégrer dans Hollywood. Lui qui a vraiment... Alors ça, c'est aussi important de rappeler, a une formation d'Européens, de Juifs polonais, il a vécu dans sa propre chair le ghetto de Varsovie, et donc on peut dire que Polanski a une prédisposition au malheur, dans sa façon d'être, dans sa façon de concevoir les choses. Et alors, Chinatown, alors déjà, je voudrais poser une question assez personnelle, Marc Aubrigon. Quel est votre premier souvenir de Chinatown ?
Eh bien, écoutez, en fait, c'est amusant parce qu'en fait, Chinatown, comme tous les grands films, je dirais un peu complexe, un peu nihiliste quelque part, c'est un film que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier. Et pourtant, j'ai toujours été un fan de Polanski. Et Chinatown, j'ai mis beaucoup de temps à le voir en entier. Déjà, souvent, il me tombait un peu des yeux, si je puis dire. Et ce n'est que assez récemment, enfin, il y a environ 5-6 ans, que j'ai pu le voir enfin au cinéma. Et là, je me suis fait, ouais, d'accord, là c'est un très grand film. Mais bizarrement, j'ai eu besoin d'avoir en amont des films qui lui font référence, donc qui sont postérieurs, comme par exemple ceux de David Lynch, pour comprendre à rebours, en fait, de quoi parlait vraiment Chinatown. Parce que finalement, comme tous les grands films, ils ne parlent absolument pas de ce dont ils ont l'air de parler. Et souvent, c'est des films où il faut interroger, en fait, ce dont ils ne parlent pas pour mieux les comprendre, quoi.
Exact. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'effectivement, c'est des films qui sont. Qui ont. 25 grilles de lecture en fait. On n'a pas fini d'expérimenter les couches et les couches. Alors, à la racine de Chinatown, il y a un scénario, scénario de Robertson. Alors Robertson, pour nos auditeurs, c'est un script doctor.
Tout à fait, qui a été formé chez Roger Corman d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et il a un de ses faits de gloire avant, ça a été justement de... Il n'a pas été crédité au générique, mais de réécrire une des scènes du parrain de Coppola, où il a été appelé en urgence par Coppola, pour notamment, et c'est pour ça c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il a été appelé en urgence pour Coppola pour réécrire la scène en fait, où Brando adoube Pacino, et Coppola voulait que l'émotion, voilà, tout ce qui est dit, passe sous les mots et pas dans les mots. Voilà, et c'est très intéressant parce que Chinatown est aussi comme ça. Et donc, Robertson va prendre comme appui sur son scénario les romans de Chandler, les romans policiers avec son héros, Philip Marlowe, et puis surtout beaucoup de renseignements sur le Los Angeles des années 30. Mais alors peut-être, avant ça, expliquer juste Chinatown, quel est le point de départ du film, juste pour que les spectateurs comprennent un peu le...
En fait, le point de départ, c'est un départ très classique hein, de film noir hollywoodien. C'est un détective donc, incarné par Jack Nicholson qui est engagé en fait, pour une histoire apparemment d'adultère. Donc, il est engagé par un homme puissant pour qu'il surveille sa femme. Et il va se révéler qu'en fait cette affaire n'est que l'écorce première d'une affaire beaucoup plus complexe qui évoque finalement une conspiration qui a existé, qui est celle de l'eau courante de Los Angeles. Ce qu'il faut savoir, alors on va sûrement y revenir, mais qu'en fait en 1905 je crois, il y a eu toute une conspiration d'investisseurs et de notables donc californiens pour construire un aqueduc de 380 mètres de long entre la vallée de San Fernando et Los Angeles afin d'irriguer la ville. Mais pour ce faire, ils ont racheté à bas prix donc des terres de paysans en les convaincant de l'assèchement de leurs terres, ce qui était faux, pour acheter ça à bas prix et donc ensuite pour faire du bénéfice sur ces terres une fois qu'elles ont été irriguées par l'aqueduc. Alors c'est très complexe, mais il faut savoir que c'est notable, donc se sont fait environ 150 millions de dollars de bénéfices juste avec cette opération.
Ouais, on appelait ça l'affaire Wentz Valley.
C'est ça.
Mais c'était une affaire qui obsédait Tang, qui obsédait. Tom, donc scénariste, est très nostalgique de ce Los Angeles qu'il a connu jeune, en fait. Et là, comme vous l'avez dit, on arrive dans un Los Angeles qui devient totalement paranoïaque. Il y a eu ces assassinats. C'est la fin des années hippies. On est dans le début des années 70, la guerre du Vietnam, tout ce contexte. Il y aura le Watergate qui va pas tarder à arriver. Donc, tout ce contexte fait qu'il y a une sorte d'aspiration, de nostalgie, et qui est très prégnante dans le film d'ailleurs, de retrouver ce Los Angeles des années 30. Et c'est un film sur la ville, en fait. Hein.
Bien sûr, oui, c'est un grand film finalement sur l'urbanisme. Faut pas oublier non plus que dans les années 30, il y a eu vraiment un boom d'automobiles à Los Angeles qui a fait venir plein d'Américains d'autres États, et que pour cette raison, c'est une ville qui s'est construite de façon complètement chaotique, à tel point qu'à l'époque, les boulevards n'étaient même pas numérotés, et du coup, qui a créé beaucoup d'enclaves finalement, même pas communautaires, mais juste des enclaves de gens qui venaient de façon chaotique. Et donc, c'était une ville où on se sentait vraiment très seul, en fait. Et donc, je pense que Chinatown aussi décrit aussi cette nouvelle configuration de la ville, finalement, qui ne sont que des espaces de solitude juxtaposés, voilà, qui sont ou parfois la misère côtoie à quelques rues des quartiers extrêmement urbains, comme le montrera très bien Lynch d'ailleurs dans ses films par la suite.
Alors, donc, on a parlé un petit peu de Robertson. Alors, juste un aparté, un message de Michel Le Gagneux, qui dit « Bonjour messieurs ». Alors, ce qui revient sur Rosemary Baby, mais qui justement apporte une précision, l'immeuble de New York où fut tourné Rosemary Baby s'appelle l'immeuble Dakota. Mmh. Dans son entrée fut assassiné John Lennon, qui avait sa résidence. Et il avait repris l'appartement occupé par Robert Ryan. Oui. Voilà. Donc, immeuble aussi qui,
oui, qui a une lourde histoire.
Voilà, qui a aussi sa propre histoire, quelque part maléfique. Alors, donc, on a parlé de Roberton. Roberton qui a mis énormément de temps à écrire ce scénario et qui a, ça a été une lutte aussi après, plus tard, avec Polanski. Parce qu'il y avait donc ce thème de l'eau, puis il y avait d'autres thèmes. Donc, chers auditeurs, si vous n'avez pas vu le film, il y aura sûrement des moments dans l'émission, en tout cas nous allons révéler quelques faits de l'intrigue. Je vous invite vraiment, si vous n'avez vraiment pas vu le film, à aller le voir et peut-être réécouter l'émission en replay, tout simplement parce que pour ne pas vous gâcher le plaisir du film, qui est un film où en fait on suit, ça c'était la volonté de Polanski, on suit vraiment Jack Nicholson dans ses révélations, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de côté de narrateur omniscient, on n'a pas de vérité, pas de voix off, on suit ses révélations et on suit un peu l'intrigue. Et donc, Ton et Polanski, il y avait notamment cette question de la fin qui les a beaucoup travaillés, mais c'est un film, c'est un scénario que Ton a eu beaucoup de mal à écrire. Il est d'ailleurs le seul crédité au générique, mais dans le livre passionnant The Big Book Goodbye, il est révélé qu'il a reçu notamment l'aide d'un de ses colocataires.
Et de sa femme aussi, qui a beaucoup enquêté pour lui apparemment sur le terrain, pour se renseigner un peu sur toutes les magouilles qui étaient encore en cours à l'époque de l'écriture du scénario. Également pour revenir un petit peu au scénario, c'est aussi l'époque, parce que Town était donc un ami de Jack Nicholson. Et Jack Nicholson commençait à être connu. Et en fait, ils voulaient, tous les deux, en fait, avaient vraiment une ambition. Ils étaient quand même des gens très lettrés, très ambitieux. Ils voulaient vraiment, bâtir un grand rôle pour Nicholson, vraiment de toutes pièces. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette dimension quasi mythologique, finalement, dans le film. Puisque d'ailleurs, à une époque, il y a plusieurs titres qui ont été évoqués. Mais à une époque, le film même s'appelait Le Roi Soleil, en référence donc à l'ennemi, enfin, au Némésis de Jack Nicholson, qui est donc incarné par John Huston et qui est une sorte de patriarche maléfique. Et donc voilà, donc il y a une dimension en fait, dans la mesure où Los Angeles finalement c'est une ville biblique, mais alors inversée puisqu'elle n'est pas verticale, elle est horizontale, comme dirait Roland Barthes, elle est réticulaire, et donc en fait c'est une ville sans centre aussi, et c'est ça aussi je pense que qui est très bien le cinéma de Polanski, et d'ailleurs tous les grands films après sur Los Angeles, c'est qu'en fait une ville sans centre, non seulement on rend fou, mais aussi finalement condamne n'importe quelle enquête à forcément s'auto-dévorer en fait. Et donc il y a vraiment ce processus finalement d'une enquête qui n'aboutit jamais, d'une contre-enquête, voire d'une contre-initiation en fait. Il y a vraiment ce côté qu'on trouve d'ailleurs chez Lynch, ou même dans Vertigo, alors qui se passe en San Francisco, mais c'est un peu la même histoire, en fait, d'enquêteurs qui au lieu d'avancer vers la vérité, vont avancer de plus en plus vers le mensonge en fait. Et donc ce sont vraiment des contre-initiations au sens presque mystique du terme, quoi. Ce sont des centres, des catabases, voilà. Il y a un côté catabasique.
Ah oui, on est très loin, justement, le personnage de Nicholson. Alors, Nicholson, pour le resituer, il a joué dans Easy Rider, donc ça, c'était un peu un de ses premiers rôles avec Peter Fonda. Mais effectivement, son premier grand rôle, c'est Robert Evans Ton qui viennent le voir, lui disent, voilà, ce rôle-là écrit pour toi. Il faut savoir aussi que nous sommes donc début des années 70, que la télévision, que les studios hollywoodiens, vous l'avez dit, vont très mal. La télévision prend énormément de pouvoir et que... Là, les studios sont dans une situation qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'il faut savoir réinventer. Tous les grands cadres, les grands pontes, les producteurs des grandes firmes ont beaucoup de mal à se réinventer. Arrivent des jeunes gens, des jeunes producteurs, Robert Evans en est l'exemple, qui vont un peu donner des pleins pouvoirs à certains réalisateurs. Et parmi les plus illustres, on pense, et ce qu'on a appelé d'ailleurs le nouvel Hollywood, on a été Bogdanovich,
Arthur Penn,
Coppola, Polanski, puis dans d'autres styles, Spielberg, Lucas, sont totalement des enfants.
Après, tout à fait.
Friedkin aussi. Donc, il y a vraiment, Jack Nicholson, dans ses déclarations, vraiment explique qu'il y avait cette ambition. Vous l'avez dit, d'un rôle mythologique et surtout de retrouver, c'est un film aussi sur le cinéma, c'est-à-dire de redonner...
une sorte d'urgence.
Voilà, de retrouver en fait un grand film de cinéma.
D'ailleurs le film qui avait lancé un peu cette impulsion, c'est Bonnie and Clyde d'Arthur Penn avec Warren Beatty, qui était un des premiers films où on voyait des fusillades avec vraiment des effets un peu gore pour l'époque. D'aucuns disaient d'ailleurs qu'ils avaient été inspirés par le fameux scène de Kennedy, où Kennedy se fait tuer. Et donc c'est vraiment Bonnie and Clyde qui a lancé un peu, je dirais, cette mode d'un cinéma, je dirais, presque documentaire dans son approche de la violence.
Oui, et d'ailleurs, dans Bonnie and Clyde, on retrouve au générique Faye Dunaway, qu'on retrouvera dans Clanetton.
Et Roberton, qui a été script docteur pour le film également.
Exactement, oui. Alors, on va écouter... on va écouter le thème, le premier thème de la musique, un thème composé par Jerry Goldsmith. Alors là aussi, il y a toute une histoire, mais on va la rencontrer un petit peu après. Le thème d'amour de Clanetton que nous allons écouter. Magnifique thème de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, immense compositeur, Marc Aurégon.
Oui, comme on disait à l'instant, pendant que le micro était coupé, Goldsmith a quand même traversé plus de 40 ans d'histoire du cinéma hollywoodien, de la musique hollywoodienne. Et ça, à chaque fois, il s'est adapté, peut-être même mieux que John Williams, au genre et au film qu'il a. Il a quand même fait la musique d'Alien, la musique de Basic Instinct. Enfin, voilà, c'est quelqu'un.
La musique du 13e guerrier.
Tout à fait. Qu'on oublie trop souvent.
Qu'on oublie malheureusement trop souvent, et qui est un film remarquable, qui a été. Ouais. Assez casse-gueule d'ailleurs pour son réalisateur
McTiernan,
mais vraiment il faudra qu'on fasse d'ailleurs une émission spéciale McTiernan qui a aussi révolutionné à sa manière le cinéma hollywoodien.
Réhabilité Rollerball, qui est pour moi qui est un grand film raté mais un grand film néanmoins.
Oui, c'est une belle tâche. C'est une belle tâche. Oui, non, mais il y a de quoi faire. Et donc Et donc Polanski arrive un peu sur le projet et donc va commencer.
Permettez-moi, faut se souvenir qu'à la base Polanski, donc à cause du meurtre de Sharon Tate, donc avait quitté USA pour sa villa romaine et refusait catégoriquement de revenir aux USA parce que pour lui c'était une douleur incroyable de revenir, surtout en Californie. Et je crois que c'est Robert Evans qui l'a appelé, qui l'a convaincu des heures au téléphone, qui lui a dit j'ai un scénario pour toi, ça va t'intéresser, etc. Et parce que c'est vrai qu'à la base personne ne pensait à Polanski et c'est Robert Evans qui a eu l'idée parce qu'il il pensait qu'il pourrait apporter justement cette fibre européenne à une histoire purement américaine et du coup créer un contrepoint intéressant. Et donc il a finalement réussi à le convaincre. Je sais qu'à la base Polanski voulait lui dire non, mais j'ai la PAC juive, je vais y aller. Et il a dit bah tu la feras chez moi. Et donc il a organisé une PAC juive dans sa villa californienne. Et donc il a réussi donc à convaincre. Et c'est aussi parce que Nicholson était très ami avec Polanski que la chose s'est faite. Mais à la base, Polanski était très réticent. D'ailleurs, quand il est revenu en Californie, il a passé plusieurs jours dans un état de dépression totale parce qu'il a revu les lieux où il était.
Ah oui, non, ça n'allait vraiment pas du tout. Ça a été très compliqué, ce qui est tout à fait logique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'en fait, ce film-là doit sa réussite en fait à cette espèce d'alchimie entre ces quatre personnes qui se connaissaient, qui s'appréciaient. Sur lequel il y a eu beaucoup de dissensions, mais ce qui est normal, Ton, Evans, Nicholson et Polanski. Donc Polanski arrive sur le projet, et là, Ton avait déjà travaillé depuis 2 ans sur le scénario, et puis Polanski, avec son manque de diplomatie parfois aussi.
Oui, bien sûr.
Et c'est comme un peu tous ces réalisateurs très sûrs de lui, et en même temps très, très professionnel, va commencer aussi à réécrire un peu ce scénario, notamment cette fameuse fin.
Bien sûr, la fin, tout à fait.
La fin dont ils ont commencé le tournage, ils n'avaient d'ailleurs toujours pas idée de cette fin.
Tout à fait. En fait, ce qui est très beau dans le film, c'est que pour moi, il y a une dimension vraiment orphique. C'est que, en fait, ce film, d'ailleurs, plusieurs fois, la phrase revient, find the girl. Vous voyez. Il y a ce côté, en fait, c'est retrouver finalement la figure de la femme disparue. Et à ce titre, donc, effectivement, il y a un écho à Vertigo. Et pour moi, en fait, c'est un film qui comporte, encore une fois, dans lequel sont encodées 2 morts de femmes qui ont beaucoup compté pour Los Angeles, qui sont la mort de Dahlia Noir en 37. Donc Dahlia Noir, pour s'en rappeler un peu, c'est une jeune starlette américaine, californienne, qui a été retrouvée en 37 dans un terrain vague, coupée en deux et atrocement mutilée. Et pendant très longtemps, alors c'est un cold case, ça n'a jamais été résolu, mais le principal suspect, c'est un certain George Odell, qui était un milliardaire polymathe extrêmement, extrêmement doué, et qui en fait faisait souvent des parties fines chez lui avec tout le gotha hollywoodien, dont John Huston, qui joue dans Chinatown. D'aucuns pensent que le choix de John Huston serait lié à ça, puisqu'en fait le meurtre d'Elizabeth Short, finalement, c'est aussi un des meurtres qui a fait commencer l'histoire criminelle américaine, finalement. C'est le premier meurtre de serial killer vraiment ritualisé. D'ailleurs, à l'époque, on disait qu'il avait été inspiré par un tableau de Man Ray. Enfin, voilà, c'est un meurtre incroyable qui polarise tout un tas d'influences, etc., et qui a vraiment changé l'histoire de la Californie.
Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, James Ellroy, que nos auditeurs connaissent forcément au moins de nom, dans son quatuor de Los Angeles, son premier roman, dans le quatuor, il a écrit juste avant, mais c'est le Dahlia Noir. Et après, il y a LA Confidential, qui est aussi très inspiré de Chinatown.
Tout à fait.
Il y a ces influences sans briques.
Et donc évidemment, deuxième meurtre, c'est celui de Sharon Tate.
Sharon Tate était une femme magnifique qui était
une égérie hollywoodienne, mais qui, on le savait, était elle également qui traînait un peu, notamment avec Anton LaVey, qui était un sataniste un peu clownesque, mais néanmoins comme sataniste. Donc voilà, donc en fait, il y a finalement 2 meurtres qui, à 25 ans d'intervalle, finalement, marquent chacun une sorte de fin de règne pour un certain Hollywood. Et à mon avis, je pense que ce film, inconsciemment ou pas, consciemment pour Sharon Tate, bien sûr, mais en fait, finalement, a un peu engrammé ces deux femmes disparues. Et c'est un grand film, finalement, sur le martyr féminin, et notamment de l'actrice, puisque finalement, ce qui est très beau dans le film, alors c'est ce que dira Paco Mitchellement, le critique de cinéma, dans son livre consacré notamment à Chinatown, il dira qu'en fait c'est un film, c'est pas tant une enquête qu'un film prémonitoire. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que Nicholson finalement dérive dans un futur qui est déjà écrit, et qu'en fait quoi qu'il fasse, en fait tout est déjà écrit. Et justement, ce qui est très beau, c'est que le quartier qui donne son titre au film, Chinatown, en fait n'apparaît jamais, si ce n'est à la fin du film.
Si ce n'est à la fin. Et ce titre d'ailleurs, la remarque, ce titre a été inspiré donc par un policier de la mondaine qui s'appelait Tony Silas. Et Tony Silas était propriétaire de chiens. Ton voulait un chien. Et lui a expliqué qu'à un moment, dans la conversation, alors c'est ce que raconte Sam Wesson, donc il y a aussi ce côté un peu à l'américaine, un peu de storyteller, mais il raconte que, en fait, voilà, à Chinatown, il ne se passe rien, il ne doit rien se passer, et finalement tout reste là-bas. Mmh. Et donc ce quartier devient une sorte comme de motif un peu qui imprègne, et qui finalement, effectivement, vous avez raison, est un cercle qui va... parce que le personnage de Jack Gillis, joué par Nicholson, a connu Chinatown, mmh. il en parle toujours de manière un peu presque subliminale, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et, que... et en fait, tout va tendre à ce quartier, qui est un quartier.
Tout à fait, oui. Et ce qui montre bien finalement à quel point ces villes américaines qui sont construites un peu dans le chaos, un peu à cause de contingences, on va dire hyper capitalistes, en fait, créent quelque part des espèces de zones blanches sur la carte, de poches d'entropie, ce qu'a très bien montré d'ailleurs encore une fois Roland Barthes. Et justement ces poches d'entropie dont Chinatown fait partie, en fait, sont presque des zones où l'impensé ressurgit. Et voilà, ce sont des zones d'interface, en fait. Et Chinatown à ce titre est presque une sorte de Black Lodge, pour reprendre l'image de Twin Peaks. Vous savez, c'est une sorte de zone,
oui,
de non-droit où finalement où le causal devient un causal quelque part.
Et donc, pour en revenir au scénario, Roberton avait cette ambition, c'était de dire le film se passe avant la Seconde Guerre mondiale. Il dit la Seconde Guerre mondiale n'avait pas encore eu lieu, et une telle manifestation du mal que le personnage du détective avait l'habitude n'avait pas l'habitude d'affronter, en fait. Le personnage donc de Nicholson est confronté à quelque chose qui va le dépasser, quoi, une figure. Alors, on va faire une petite pause musicale, toujours dans le thème avec la musique de Jerry Goldsmith, et cette fois-ci c'est avec le thème de Noah Cross. Magnifique thème de Noah Cross, donc joué par le puissant et le machiavélique John Huston, dans un rôle glaçant.
Tout à fait. Qui apparemment était assez proche de ce qu'il était en réalité, même si, alors, moi j'aime beaucoup John Huston, c'est un très grand cinéaste, mais il a beaucoup de casseroles.
Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, parlons justement des acteurs, parce que alors, nous avons parlé de Jack Nicholson. Il faut savoir que Jack Nicholson et Polanski se sont magnifiquement entendus sur le tournage.
Oui.
À part une scène, alors on dit que c'est l'anecdote, c'est que...
La scène des Lakers.
Voilà, la fameuse scène, bah, vous pouvez raconter justement.
Oui, bah, c'est juste que Polanski s'est confronté un peu à l'américain de base qui est fan de sport, notamment des Lakers. Et pendant une scène très dure à tourner, apparemment Nicholson a insisté pour aller voir la finale donc des Lakers dans son bungalow. Et donc il y est allé au mépris du planning de tournage. Et donc Polanski a débarqué dans sa caravane, a tout cassé, a jeté le téléviseur par la fenêtre, et apparemment il y avait un pugilat, ils ont fini en sous-vêtements hilar, voilà, donc ça,
oui,
ça
c'est bien fini. C'est-à-dire qu'ils se sont ils sont tous les deux partis du tournage en voiture, en sous-vêtements, ouais. Et ils s'arrêtent à un feu, et là ils se regardent et ils éclatent de rire, ouais. Et ils se disent, surtout ne disons rien à l'équipe, oui. Qui va penser que
le film est fini,
on attendra demain matin. Donc voilà, Nicholson est un très très grand professionnel, il connaît magnifiquement son texte, et il est tout le temps sur le tournage, sur le studio, il ne veut pas aller dans sa roulotte, il veut rester sur place. Et alors, son pendant, Faye Dunaway, qui n'était pas d'ailleurs préposé au rôle au départ, on pensait à Jane Fonda.
Tout à fait.
Et donc, Faye Dunaway, où là, la réputation de... Alors, c'est peut-être son plus grand rôle.
Oui, sûrement. Oui.
Et la réputation qu'elle a, c'est d'être une actrice... pour le moins très difficile. Et la cohabitation va être assez houleuse.
Oui, alors apparemment la cohabitation était houleuse, notamment pour la fameuse scène de gifle, en fait, où elle tenait effectivement au nom de l'acteur studio, j'imagine, à être réellement giflée. Et finalement, la scène, je crois, a mis plusieurs heures à être tournée. Et Nicholson refusait de la gifler. Et elle, en fait, était un peu en mode, je dirais, comme on dit maintenant, passive-agressive, c'est-à-dire gifle-moi, mais en même temps, elle se plaignait de gifler trop forte. Enfin, voilà, c'était, il y avait comme ça beaucoup de moments très tendus. Et je pense qu'en plus, Polanski, comme beaucoup de grands cinéastes un peu démiurgiques, jouissait un peu de ce genre de situation, justement, où le réel s'est mis dans la fiction, en fait.
Il y a d'ailleurs aussi, donc il y a aussi cette fameuse anecdote que raconte souvent, cette fameuse scène du cheveu où Faye Dunaway, il y a un cheveu qui rebique, la maquilleuse n'arrive pas à l'enlever, et finalement Polanski arrive et arrache le cheveu. Donc là, vous imaginez le drame. Mais oui, c'est vrai qu'on le voit à plusieurs reprises. D'ailleurs, Polanski a un rôle dans le film.
Oui, tout à fait, oui.
Il a un rôle, il joue un triste personnage d'ailleurs. Et c'est dit dans le livre sur les anecdotes de tournage, il avait quand même certaines jouissances à pouvoir un peu martyriser alors à la fois comme réalisateur et puis dans ce rôle-là, parce que c'est lui dans le film
qui défigure Nicholson.
Voilà, qui défigure Nicholson. Parce que c'est quand même, alors c'est incroyable, Nicholson porte un pansement les trois quarts du film.
Oui. Oui, alors, effectivement, on peut y voir un pied de nez peut-être à la starification des acteurs d'Hollywood, mais aussi peut-être en cherchant un peu trop, peut-être qu'on peut y voir aussi une sorte de symbolique de la, justement, si on considère qu'il est une sorte de dieu, une symbolique de la perte d'un organe nécessaire justement pour arriver à une sorte d'illumination. On pense à Odin qui perd un œil pour accéder à la connaissance, là il perd son nez, mais je pense que dans beaucoup de mythologies, effectivement, la perte d'un organe conduit peut-être à une sorte d'initiation ou de contre-initiation. Donc ça peut être...
Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a chez Polanski cette volonté, il aime malmener ses acteurs, il aime malmener ses personnages. Et d'ailleurs, la scène où Polanski doit couper le nez, en fait, défigurer le nez de Nicholson n'était pas du tout rassuré, c'était une sorte de montage, il y avait du faux sang qui devait gicler, ils l'ont fait plusieurs fois, et Nicholson disait qu'il soupçonnait Polanski d'y prendre beaucoup de plaisir. Ce qui n'est pas très rassurant. Donc, on a ce tournage qui se déroule de septembre à octobre 73 pour un budget, alors qui n'est pas un budget énorme, 6 millions de dollars.
Oui, non, c'est pas énorme. Même pour l'époque, c'est pas excessif. Ouais.
Et c'est... alors, le film, il va y avoir... une des grandes réussites du film, c'est que... Alors, j'en ai un peu petit peu. Parler, c'est qu'on va suivre, en fait, le spectateur suit le détective Jake pas à pas, en fait. Il n'y a jamais de contrepoint, de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il faut savoir que Polanski avait fait appel à un chef opérateur très connu qui est Stanley Cortez, qui a travaillé pour Orson Welles. Et au début, en fait, donc en tant que grand professionnel du filmage en studio, il avait apparemment privilégié vraiment des lumières directes, sans non réfléchies, et notamment des couleurs très chaudes comme le rouge. Parce que je pense qu'il disait qu'un film noir devait se passer dans une ambiance un peu voilà de rouge d'écarlate pour rappeler la sensualité éventuelle du film. Et quand Polanski a vu les premiers rushs, il était fou de rage parce qu'il disait mais c'est pas du tout ce que je veux. Parce que faut savoir, comme vous l'avez dit en préambule, le film pour un film noir se passe quasiment tout le temps au soleil, en plein soleil, oui. Hein, de plein jour. Et donc forcément, d'avoir un chef-op expressionniste en plein jour, ça marche pas très bien. Donc Cortez a été débouté juste au bout d'un mois de tournage, je crois. Et Polanski a fait appel à un petit jeune qui s'appelle John Alonso, qui était surtout connu pour être documentariste pour des documentaires de National Geographic.
Oui, de Cousteau, notamment.
Oui, tout à fait. Et parce qu'il, justement, il tenait, d'après ses propres dires, à donner l'impression que les spectateurs étaient dans une sorte d'aquarium, en fait, finalement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a privilégié des objectifs de 40, 50 mm pour avoir vraiment ce côté, donc un grand angle, mais oui. Vraiment pour tenir à distance les personnages. Et pour donner l'impression vraiment qu'ils n'avaient pas forcément d'issue de secours. Voilà. Et
oui, c'est vrai que c'est filmé à hauteur d'homme sur des plans très larges. Et en fait, le seul moment où on va prendre de la hauteur, c'est la fin. C'est le seul moment où Polanski va demander une grue.
Tout à fait. Oui. Ouais.
C'est le seul moment où le film va s'élever. Voilà. Mais sinon, on reste vraiment à hauteur d'homme pendant tout le film avec ces plans effectivement très larges où on voit les acteurs en arrière-plan. Et c'est un film. Alors, la lumière a posé énormément de problèmes parce que même derrière, Evans a, je crois, sur la première version du montage, a demandé à ce que ça soit un peu qu'il y ait certains filtres et que Polanski est revenu dessus en disant non, il faut la lumière la plus naturelle qui soit, en fait, une lumière et qui donne cette couleur au film très réaliste.
Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que Rosemary's Baby, qui était vu juste avant, était un film extrêmement complexe à faire, avec beaucoup de mouvements d'appareil, beaucoup de travelling, beaucoup de filmage en studio. Et là, à l'inverse, on a un film qui est presque, enfin, qui a des dehors quasiment naturalistes, finalement, ce côté un peu documentaire. Et effectivement, qui était pour Polanski assez nouveau, parce que Polanski, on sait qu'avant, il refusait de faire des plans d'ensemble, parce qu'en fait, il se disait que ces plans d'ensemble pouvaient servir au producteur pour lui imposer, finalement, des remontages. Parce que,
oui, c'est vrai, voilà. Ça, oui.
Et donc, parce que c'est plus facile de remonter sur des plans d'ensemble que sur des plans, des gros plans. Et donc, il refusait d'en faire par pure malice, on peut dire. Et là, finalement, il en a fait parce que pour lui, ça servait vraiment le propos du film, qui était vraiment de montrer comment finalement la ville était le personnage principal et non pas les personnages et non pas les acteurs.
Mais c'est un film qui est lent. Hein.
C'est un film très lent. C'est un film. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que on a Nicholson, on l'appelait The Weaver, vous savez, ce qui veut dire en anglais le tisserand, parce qu'apparemment il avait un débit, enfin il parlait beaucoup, il faisait des très longues phrases. Et en fait, Polanski lui a demandé de parler plus vite parce qu'en fait, sinon le film aurait duré 3 heures.
Oui, oui, c'est ça. Il lui a demandé d'accélérer un petit peu. D'ailleurs, ça a créé un petit peu de tension, mais Nicholson avait cette intelligence de comprendre que ça servait le film et qu'il avait tout intérêt justement à ce que le film soit bon. Mais oui, il y a cette lenteur. Et puis alors, Polanski, dans sa direction d'acteur, est extrêmement méticuleux et il est même à rebours de toute cette génération Nouvelle Hollywood où il y a beaucoup de caméras sur l'épaule. On pense par exemple à un film de... on prend sa French Connection de Friedkin qui se passe à une vitesse folle, mais on a quand même peut-être pas ce classicisme de Polanski qui vraiment pense à tout, à tous les détails. Il y a même cette histoire de fourmis, c'est-à-dire que il y a une bagarre dans l'orangerie et Nicholson tombe et il y a une fourmi qui lui grimpe sur la joue. Et Polanski filme ça et veut absolument qu'en refaisant le plan, la fourmi soit toujours là. Donc voilà, ça a été la fourmi, paraît-il, la plus précieuse d'Hollywood. c'est assez impressionnant. Parlons peut-être alors un peu de la musique, parce que le Jerry Goldsmith n'était pas à l'origine le compositeur de ce film.
Qui était-ce?
C'était Philippe Lambreau.
D'accord.
Et d'ailleurs, on peut la retrouver sur Internet, et qui avait fait une musique peut-être très novatrice, avec beaucoup plus discordante, et qui, alors, à une semaine, je crois, de la sortie, n'a pas du tout plu en projection, son test, mais vraiment pas du tout. Donc,
Goldsmith a été appelé en renfort et on lui a demandé de composer la bande originale en une semaine, ce qu'il a fait brillamment, et le résultat est absolument impressionnant. Alors justement, parlant de Jerry Goldsmith, on va peut-être écouter un morceau qui a été qui était en fait une reprise d'une chanson de Sinatra qui est utilisée dans le film, une version piano qui est vraiment superbe. Magnifique musique, The Way You Look Tonight, de Jerry Goldsmith, enfin, qui est la reprise de la chanson de Sinatra. Alors, il est important, alors, quand on évoque Chinatown, c'est un film qui, alors, il sort en 74.
Ça fait, ouais.
C'est toujours très intéressant, et quand on s'attarde sur ces grands chefs-d'œuvre comme même Le Parrain, tout ça, de s'apercevoir que tout le monde est très fébrile. Il y a le doute et personne n'a l'impression d'avoir fait un grand film. Tout le monde doute et l'accueil, finalement, grâce aussi à la musique de Goldsmith, va être formidable. Et donc le film va être nommé, avoir 11 nominations aux Oscars, sauf qu'il va tomber l'année du Parrain 2, qui n'avait pas reçu d'Oscar pour le premier, donc ça a été un peu plus compliqué. Juste sur le film, et après on parlera de son héritage, Marc, vous, quand c'est un film, je suppose, vous prenez plaisir à revoir, pour ma part, moi je prends énormément de plaisir à le revoir. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce film ?
En fait, moi, je trouve justement, c'est un film virtuose, mais c'est un film qui n'est pas très plaisant, d'ailleurs, comme beaucoup de Polanski, qui sont finalement assez durs à voir, parce que ce sont des films, justement, qui sont, alors, le terme nihiliste est peut-être un peu galvaudé, mais en fait, des films, j'y reviens, contre-initiatiques, qui finalement partent du principe que la vérité est complètement inatteignable. Et je pense, et à ce titre, le film n'est pas du tout gratifiant. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on est quasiment revenu au début. Voilà, ce sont des films boucles, en fait, comme des rubans de Moebius. Et par conséquent, c'est des films que je trouve finalement, un peu comme certains d'ailleurs Kubrick, qui ont à la fois une grande misanthropie et je dirais un grand sentiment d'échec par rapport à la vérité. Donc c'est, en ça, c'est un très grand film, pas forcément très agréable à voir, d'autant qu'effectivement le rythme est très long, que le voilà, qu'il y a une ambiance. En fait, c'est un film qui ne se livre pas finalement, qui ne livre pas ses clés.
Et peut-être qu'alors on l'a pas assez dit, mais c'est un film complexe. C'était un scénario assez
complexe,
avec plusieurs histoires qui se superposent. Ouais. Et en fait, on déroule un fil. En fait, spectateur, nous allons comprendre que finalement, au bout du bout, donc il y a cette idée qu'on va suivre ce détective.
Tout à fait.
On va comprendre. Et en fait, on est comme lui, on nous comprend à peine. Le moteur d'ailleurs de Jake, c'est l'orgueil.
Oui,
c'est l'orgueil de s'être fait avoir. Ouais. On n'expliquera pas pourquoi, mais au début, il se fait avoir. Et c'est cet orgueil-là qui le conduit à aller plus loin dans cette enquête. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil d'un type qui finalement revient au point de départ. Et c'est assez fascinant, effectivement, de suivre pas à pas, vous l'aviez très bien dit, sur une enquête qui, en fait, on n'est pas du tout dans la figure du détective qui va trouver les indices, qui va déduire. Là, les déductions arrivent un peu par défaut.
Bien sûr, et c'est aussi parce que justement, la grande figure de l'enquêteur, vous savez, a été inventée par Edgar Poe dans Assassinat pour la rue Morgue, mais c'était donc au 19e siècle, c'était encore une époque finalement où le monde était lisible en fait.
Oui.
Et la grande différence finalement, le grand passage justement du statut d'enquêteur, c'est quand justement le monde industriel, post-industriel devient, produit trop de sens et du coup devient illisible. Et c'est pour ça qu'on a à partir des 70 des enquêteurs qui en fait sont dépassés par l'environnement dans lequel ils sont et qui du coup n'ont plus les moyens de comprendre, de lire le monde dans lequel ils sont, et finalement c'est même eux qui vont se faire parasiter par le monde qui les entoure. Et ça, Chinatown, je pense que c'est vraiment le premier grand film à montrer ça.
Et c'est un film, c'est ça qui est le paradoxe, c'est un film qui part des années 30 mais qui en fait a des réflexions des années 70. On a d'ailleurs souvent parlé d'un film néo-noir. D'ailleurs, le premier plan est assez frappant, c'est que on a des photos d'adultère à la première image, comme ça, chose qu'on ne verrait jamais dans les années 40. Il y a ce côté, Polanski veut aussi de la violence, il veut du sang, il y a vraiment ce côté 13 années 70, mais appliqué dans un film aussi très classique. Alors, il faut le dire aussi, Jack Nicholson porte magnifiquement le costume dans ce film.
Oui, justement, c'est pour prendre un peu à rebours l'image de Humphrey Bogart, on a un père élimé. Là, au contraire, on a affaire à un détective qui est dandy, hyper classe.
Alors, on va parler maintenant, il nous reste 7 minutes, la discussion file. On va parler maintenant de cet héritage, parce que Chinatown, en plus, alors ça a été vraiment un grand succès, ça a récolté un Oscar, qui est celui du scénario de Roberton, mais il y a aussi tout l'héritage que derrière ça a amené. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de ces films, ces réalisateurs qui ont été marqués en fait par ce film? Alors,
déjà, juste avant, on peut quand même revenir sur le fait que c'est le dernier film tourné par Polanski aux USA, puisque juste après, en 77, donc il y a eu l'affaire Samantha Gamer, donc cette jeune femme qui l'aurait abusé et qui l'a donc forcé à partir, à s'exiler en Europe.
Voilà. Et pour revenir à l'affaire, Polanski a reconnu, en fait, il a eu 6 chefs d'inculpation qui sont tous aussi plus sordides les uns que les autres, pour éviter une peine trop lourde. Il a reconnu un des chefs et d'accusation, donc il a été reconnu coupable. Après, il y a une histoire de juge où, en fait, il a fait, je crois, 42 jours de prison. Et là, le juge en question prévoyait de le remettre en prison, mais après de le relibérer, il a préféré partir. Ça, c'est voilà, c'est dans les faits, c'est concrètement c'est ça.
Tout à fait. Et pour finir, donc il fait donc son premier film européen français, qui est Le Locataire, qui à mon humble avis est son dernier chef-d'œuvre, et qui est un film de noirceur terrible où il joue le premier rôle et où il se met quasiment comme une sorte de martyr du cinéma en fait. Et pour moi, c'est un film testament. Et d'ailleurs après, je sais pas si vous partagez mon avis, mais son œuvre après Le Locataire, pour moi, est plus que dispensable. Et pour moi, c'est vraiment cette période jusqu'au Locataire où vraiment c'est un cinéaste virtuose qu'on peut mettre au rang de Kubrick par exemple. Et après, je pense qu'il a vraiment vécu une sorte de décompensation artistique et qu'il a eu beaucoup de mal à retrouver l'inspiration qu'il avait avant. Ça n'engage que moi. Et donc pour revenir à l'héritage, alors évidemment c'est un film matriciel, hein, c'est un film qui a engendré tout un tas de suiveurs, de clones, etc. Pour moi, vous savez que c'est un peu mon dada, je suis un fan de cinéaste. Pour moi, le premier héritier de Chinatown, c'est David Lynch, en fait, avec sa trilogie de Los Angeles, qui est donc Mulholland Drive, Lost Highway et Inland Empire, qui sont trois films, justement, qui vont essayer, euh, qui sont, qui sont pareillement qui sont des espèces de non-enquête ou de contre-enquête, et qui vont justement essayer finalement de trouver ce centre mouvant de la ville de Los Angeles, en fait. Ce qui est le sujet de Chinatown, c'est où est le centre, en fait.
Où est le centre... qui est une quête absurde, voilà, parce qu'il n'y a pas de centre.
Voilà. Donc est-ce que c'est Mulholland Drive, est-ce que c'est est-ce que c'est Chinatown, on ne sait pas. Et ce centre mouvant, c'est justement c'est un peu ce vertige métaphysique que Lynch a essayé de reproduire dans le sillage de Polanski.
Moi, j'ai pensé à Lynch, d'ailleurs, en regardant Chinatown, c'est cette figure du garçon à cheval blanc.
Oui, tout à fait.
Voilà, qui est une figure qu'on retrouve chez Lynch. Et d'ailleurs, une figure qui n'est pas vraiment expliquée dans le film.
Non,
voilà,
pas du tout. Qui est presque fantastique.
Ouais. Voilà, Ton voulait justement une figure qui interpelle comme ça. Oui, et cet héritage, il y a un film, moi, que je trouve, alors qui est peut-être de façon plus un peu prosaïque, mais L.A. Confidential de Kiersey Sensen, qui est sorti en 97 avec Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, adapté d'un roman de Leroy qui lui-même était très imprégné de Chinatown, est un film qui est plutôt réussi dans cette... pas autant que Chinatown, mais qui est aussi réussi par rapport à cette ambiance, effectivement, cette ville de Los Angeles bien trouble.
Et alors, on pourrait dire également que le rôle de Jack Nicholson a aussi créé toute une mode de ces détectives qui sont peu à peu rongés par la propre enquête. Le plus probant, c'est Angel Hart, par exemple, avec Mickey Rourke, où d'ailleurs il a également un cache-nez qui est un hommage à Chinatown. Et donc voilà, c'est vraiment la figure de l'enquêteur qui peu à peu en fait devient lui-même hanté par le mal sur lequel il enquête, quoi. Ou même voir Bad Lieutenant de façon un peu différente.
Oui, la belle Ferrara avec Harry Cassel.
Qui pour moi est un lointain écho aussi de ces détectives qui sont dévorés par leurs enquêtes, quoi.
Oui, mais le film effectivement c'est tout le paradoxe, d'ailleurs, c'est que Nicholson est extrêmement bien habillé, très élégant, mais totalement rongé par l'enquête. C'est un film qui a, alors il y a beaucoup, certains ont vu aussi Michael Mann notamment, dans sa façon de filmer avec ses grands angles, sa façon de filmer un peu au plus près, comme il l'a pu faire par exemple sur Collateral ou même Hit, ses films, il y a aussi une résonance par rapport à la façon de filmer de Polanski.
Alors, Michael Mann, j'avoue que je suis moins fan déjà de son cinéma, qui pour moi est parfois un petit peu ostentatoire, mais effectivement dans la façon de filmer Los Angeles, effectivement il y a ce côté on va dire cette espèce de goût pour les zones franches, si je peux dire, pour les blancs sur la carte là, pour les...
Très bien. Eh bien, écoutez,
j'aurais aimé citer quand même un film qui est peu connu, qui est de David Gordon Mitchell, qui s'appelle Under the Silver Lake, sorti en 2008, et qui est un très grand film justement sur le Hollywood secret, un des rares films où à chaque seconde on se demande ce qui va se passer dans la minute d'après. Et voilà, un film très important à mon avis, et qui est directement inspiré par Chinatown. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, cette émission va bientôt se terminer. Alors, la première chose, c'est déjà, si vous n'avez pas vu le film Chinatown, c'est d'aller le voir, de prendre ce temps, en fait. Et je trouve que dans une époque qui est totalement omnibulée par la vitesse, l'instantanéité, il est toujours bon de se replonger dans ces grands films, ces films très amples, très généreux, et qui prennent aussi le temps. Hein. Il faut aussi acheter...
L'incorrect,
qui est sorti aujourd'hui,
et dont le dossier est consacré à la commission d'enquête sur l'audiovisuel, avec Charles Alloncle, qui est en couverture, et qui dénonce,
avec un travail absolument formidable. Et puis aussi les cahiers de la Nouvelle Marche sur Dantec. Relisez Dantec, c'est toujours bon, salvateur dans ces temps un peu étranges. Nous allons nous retrouver donc dans un mois exactement pour un nouveau Libre Journal, et d'ici là, et ben écoutez, regardez des bons films, regardez des grands films, et on se quitte sur notre générique de Flic ou Voyou.
D'entendre le Libre Journal du cinéma dirigé par Philippe-Henri Rambaud, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 2 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.